pour ce plaidoyer pour un monde plus sensible. Est-ce que vous voulez qu'on mette 2-3 personnes là-bas, par exemple moi?
Ce sera plus agréable. Est-ce que tu veux te mettre à ma place, du coup? Tu vas y aller?
Oui,
d'accord, ça marche.
On va finir sur
des dessins.
Tu veux
mettre.
Je
crois qu'il y a
quelque chose qui marche. On se passe à ça.
Extraordinaire. Vraiment.
Salut, il a
regardé.
Il est longtemps.
Qu'on amène
d'autres choses.
Non, c'est bon, c'est
juste.
Là, c'est.
L'idée, c'était juste qu'on se mette pas. Voilà, qu'on se tourne pas le dos, quoi.
Les deux là.
C'est marrant, j'étais avant de manger les amandes, je crois que je ne vais pas les manger.
On mange autre chose.
Il y a du chocolat ou pas? Du coup, c'est du chocolat, les amandes. C'est bon.
Gâteau au chocolat.
Gâteau, non?
Non, un gâteau.
Ça craque la gorge.
Vous connaissez la plantine?
Oui. Moi, je savais pas que le crayon avait fermé, par contre.
Si, il y a assez longtemps, enfin, maintenant.
Okay. Et du coup, c'est remplacé... Enfin, comment ils s'organisent en anthropologie à Lyon en ce moment, c'est...
Non, mais quand... Le créa, c'était un labo, hein, donc... Les ethnologues se sont dispersés dans différents labos et moi j'ai suivi la plantine, mais c'est un labo de géographie, environnement, ville, société. Je suis dans l'environnement, donc ça me correspond, mais voilà.
Et par rapport aux ateliers, les retours des enfants, leur réaction par rapport à quelque chose de plus naturaliste comme animation
Comment, de plus naturaliste?
Ouais, chez nous, enfin, nous, c'est de l'animation, mais c'est très naturaliste, identifiant l'animal et tout. Je voulais savoir, du coup, le retour des enfants après vos animations, comment quelle vision, entre guillemets, non, mais quelle...
Bah, ils adorent créer leur animal, hein.
Ouais,
c'est leur animal, après. On peut voir, par exemple, les approns. Alors ça, c'est former fonction, ils créent un animal en leur donnant les fonctions qu'ils veulent. C'est la science qui donne l'art, finalement. Mais... Alors, sur le Rhône, ça a été beaucoup fait avec les enseignants, hein, qui lisaient la mallette, qui l'utilisaient. On les formait à la mallette, mais bon, ils n'avaient pas le temps de se former. L'apron, c'est une espèce endémique du Rhône. Tous les enfants adorent l'apron. Ils savent ce que c'est, quoi, l'apron. Ils ont un rapport affectif avec ce petit poisson qui est menacé et qui risque de disparaître. Non au sac plastique, vous voyez, c'est tous des approns qui représentent sa chaîne alimentaire. Donc ils ne sont pas tout à fait approns. Mais justement, ils sont personnalisés.
Moi, je ne savais pas ce que c'était que l'apron. Je ne connaissais pas.
Et oui, c'est une espèce endémique du Rhône. Endémique, c'est-à-dire qu'il n'existe que sur le Rhône.
Ah oui.
Mais qui témoigne quand même d'un lien ancien avec le Danube, parce qu'il y en avait dans le Danube.
Merci pour votre énergie, moi,
ouais, dis donc.
Il se passe un truc.
Il se passe un truc.
Et ben, vous diffusez un truc.
ressens une colère. Alors moi, souvent, je vais à cette colère, mais j'ai l'impression que vous l'avez tellement plus que
ça
me détend. C'est
vrai que ça fait très plaidoyer.
C'est des vases communicants.
Ben là, je me suis un peu lâchée parce que c'est vrai que quand je fais des conférences dans des contextes universitaires, je ne dis pas tout ça, ou je ne dis pas comme ça, ou je m'appuie beaucoup sur des références.
Parce que c'est mal perçu.
Ben, la pensée cartésienne, elle a structuré toute notre société et
oui,
il
certes,
y a beaucoup de.
Mais même dans votre milieu de recherche.
Ben, oui, quand
c'est
même.
Pas un peu plus élargi.
On parle beaucoup de, des points de vue non humains, mais c'est encore. Enfin, ça dépend justement. En éducation à l'environnement, ils sont plus ouverts quand même, et au Canada aussi.
Moi, je me rappelle de mes cours en anthropologie de religion. Donc, en fait, c'est comme ça que ça s'est présenté aux étudiants. Il y a les grandes religions monothéistes. On étudie le christianisme, l'islam, donc ça passe beaucoup de temps là-dessus. Puis après, on va étudier le bouddhisme. Et puis à la fin, il y a l'animisme, mais l'animisme, c'est juste une page. L'animisme, parce que l'animisme, c'est oui, c'est il y a quelques, mais c'est pas de la caricature, c'est enfin, et oui, il y a des indigènes qui pensent que les arbres ont une âme en fait, mais ça n'est. Enfin, moi, j'avais été frappé de ça, de cette classification où finalement. Dans la religion, dans ce lien sacré au monde, en fait, 90% d'enseignement, c'est la religion monothéiste. Il y a quand même un intérêt pour le bouddhisme, mais par contre, l'animisme, c'est juste une anecdote, en fait. Enfin, je ne sais pas si ça répond à. Mais, du coup, enfin, en tout cas, moi, à l'époque, je suis passé. J'étais étudiant il y a une quinzaine d'années, mais oui, j'avais été un peu surpris de. On peut faire un peu plus que. Ben, s'intéresser de façon très, pour le coup, naturaliste à l'animisme, comme le ferait le conservateur du quai Branly, quoi. Hein, c'est-à-dire qu'on va mettre un peu ses. Et du coup, je trouve qu'on est très loin du dialogue avec les choses et du dialogue avec. Avec les ondes et les bois.
J'ai bien, c'est pas une histoire d'âme, enfin c'est animé, c'est sûr, mais ça va plus loin que ça. C'est l'intention du vivant, le conatus.
Alors, dans la société, il y a des penseurs, enfin je ne vais pas monopoliser, mais il y a des penseurs enfin, qui font autorité. Je pense à Maurice Merleau-Ponty, qui pour le coup, pour moi, était un auteur animiste. En fait, il a, à la fin de sa vie, il a. Son dernier livre, Visible et Invisible, bon, il est mort dessus, mais enfin, il arrivait vraiment à exposer une pensée complètement animiste. Le dialogue des ondes et des bois, c'est à la fin, il invite à ça, il est percevoir, c'est dialoguer avec le vent, c'est dialoguer avec la pluie, c'est être en capacité de parler, enfin de. Alors, encore une fois, on n'est pas dans quelque chose de surnaturel, mais c'est juste que cette sensibilité, il parle d'une conscience éclatée au monde. D'avoir cette capacité de s'éclater aux choses et du coup d'être dans un échange. David Abraham exprime très bien des choses aussi là-dessus, sur cette façon qu'on peut effectivement échanger, être en communication avec les non-humains. Et je trouve qu'en tout cas, l'anthropologie universitaire aborde les choses avec beaucoup, beaucoup d'extériorité. C'est-à-dire qu'on va étudier des peuples lointains, mais moi en tant qu'être humain, quand je vais dans mon jardin, où j'en suis du dialogue avec la tomate, avec le gazon.
J'avais l'impression quand même que on a quand même, il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer ces dernières années. On parle beaucoup de chamanisme, il y a des tas de pratiques qui se développent. On est quand même beaucoup. Enfin, ça commence à submerger nos façons de penser, tout ça.
Un peu plus quand même, mais bon, l'université, c'est vrai que c'est mais justement, moi, j'essaie de faire des traductions, parce que là, bon, vous avez senti de la colère, c'était pas moi.
Non,
mais
on n'a pas eu peur, ça va.
Non, de l'énergie positive.
C'est légitime aussi.
J'essaie beaucoup de traduire, c'est-à-dire que pour l'éducation nationale, pour passer dans l'éducation nationale, il faut s'adapter. Donc la poésie, c'est une forme d'animisme, notre balade, mais de façon exotérique, c'est-à-dire pas ésotérique, mais exotérique, en dehors d'ésotérisme. C'est des traductions, on essaye d'avoir un autre langage. Et c'est vrai que maintenant, elle émerge de façon plus visible, et le chamanisme, etc. Mais bah, Patrick Perrin, oui, c'est dommage qu'il ne soit pas là, il m'a dit qu'il ne pouvait pas venir parce que...
Il est intervenu avec ton café.
Oui, j'avais écouté. Lui, il pratique du chamanisme à l'occidental un petit peu. C'est un médecin généraliste. Mais il faut se méfier aussi, enfin se méfier. Je ne sais pas s'il faut se méfier, mais à l'université, on ne va pas faire du chamanisme. Hein. On va quand même beaucoup...
Sur le rapport à la pensée animiste, en fait, moi, j'accompagne des groupes de personnes handicapées et j'ai l'impression de retrouver ça chez certaines personnes, peut-être surtout dans l'autisme, où en fait, il y a des choses qu'on comprend pas forcément parce que je pense que ouais, on a cette déconnexion, quoi. Et c'est vrai que peut-être que ces personnes, enfin, moi, quand je travaille avec elles, il y a quelque chose qui me reconnecte et qui me... sans forcément analyser et chercher à comprendre, c'est des choses qui se passent et qui me font voir autrement, et ça me descend vraiment. Je viens de passer 2 semaines avec ces personnes et ça me descend complètement de nos normes et de nos habitudes, et ça fait du bien, quoi. Et j'avais entendu dire par une psychologue que chez les enfants, il y avait un rapport à l'animé, justement, le fait de mettre du vivant dans les peluches, par exemple. Donc du coup, est-ce qu'on peut dire qu'on est vraiment sorti de là, ou est-ce que c'est un rapport d'âge finalement qui nous en éloigne, ou...
Ben, Descartes se méfie des fous, des enfants, des femmes et des sauvages. Ça veut tout dire.
Tout dans le même sac.
Ça veut dire.
Des gens ça veut dire qui que osent, voilà. Qui osent passer les frontières du ouais, enfin de l'évidence, quoi, enfin de l'évidence de la. De l'établi, voilà, de la rationalité, ouais. Et puis, ouais, c'est tous ces gens, toutes ces personnes qui sont au-delà de ça, quoi, qui vivent au-delà de ça, et sans limite, voilà, établi, c'est intéressant.
Ouais. Moi, je me questionne sur comment pas justement retomber dans le piège de la espèce de dualité entre rationalité et animisme. Parce qu'en fait, on est dans une société qui a été construite, on va pas refaire l'histoire. Et en même temps, il y a des enjeux aujourd'hui de reconnexion très forte avec les mondes sauvages et les entités qui peuplent ces mondes-là, dont il faut prendre une responsabilité, puisqu'on est ceux qui avons construit le plus le monde, on va dire, qui avons un grand impact dessus. Et comment, en fait, on peut quand même, je sais pas comment le dire, mais... s'inspirer d'une pensée sauvage qu'on réinjecterait dans nos structures de pensée qui sont héritées quelque part et qui sont là. Comment on peut réinjecter... Il y a un exemple où vous avez parlé de train vert et bleu. Pour moi, c'est train vert et bleu, c'est vraiment purement de la rationalité, par exemple, parce que c'est un outil de planification. Alors certes, avec une compréhension des enjeux écologiques, donc on a vraiment intégré plein de choses, notre manière de faire la ville, mais quand même, il y a de la méthode. Et comment, par cet outil de planification très méthodique, très rationnel, on peut réinjecter de la pensée sauvage dans la manière de faire la ville. Donc ouais, ça me questionne, comment est-ce qu'on peut vraiment ne plus penser en séparation, mais se dire, enfin ne plus, je sais pas comment l'exprimer parce que c'est assez compliqué, mais de se dire qu'on peut vraiment inventer, hériter de plein de choses, construire une autre culture, hériter de plein de choses, Et avancer pour le mieux, quoi, pour... c'est pas vraiment une question, mais c'est un questionnement.
En fait, c'est un peu ce que j'ai fait avec ce projet qui était dans les écoles pendant 20 ans, parce que pour être dans l'éducation nationale, il faut forcément traduire, quoi, ne pas tout dire, ésotériser. Mais effectivement, avec les trames vertes et bleues, on avait essayé de travailler avec... Saint-Étienne là-dessus, on pouvait accompagner par exemple les gens qui, ceux qui travaillaient là-dessus par des malades, des choses comme ça. Et puis on n'a pas continué parce que c'était encore un autre projet qui demandait encore du temps. Ouais. Mais voilà, ça peut être effectivement accompagner les gens qui créent, enfin qui planifient.
Moi, pardon, si je peux poser une question, un éclaircissement sur la notion d'ethnocentrisme. Du coup, si on est dans l'animisme, c'est-à-dire qu'on pense l'animal et le végétal et l'humain comme quelque chose de plus global, et du coup, on ne peut plus parler d'ethnocentrisme, c'est ça, puisqu'on n'est plus seulement sur une pensée de l'homme, on ne sépare pas. Mais on peut quand même dire que des personnes qui seraient animistes peuvent être ethnocentrées par rapport à d'autres cultures. Puisque l'ethnocentrisme, je l'entends plus en termes de culture dominante, enfin ma culture, mon point de vue par rapport au point de vue d'une autre culture. Je ne sais pas si vous voyez, mais du coup, on peut quand même retrouver de l'ethnocentrisme chez des gens dont on dit qu'ils ne sont pas ethnocentrés.
De toute façon, comment dire ? Alors, il y a une phrase de Lacan que j'aime bien, c'est les noms du père et les noms du père. Les noms NOMS du père, ceux qui sont sous le père, sous une chapelle, et les noms dupes qui errent. C'est-à-dire que ça traverse tout ça. Ça traverse tout, c'est-à-dire que il y a du bouddhisme populaire avec des petites chapelles, et puis il y a du bouddhisme métaphysique, il y a de l'islam métaphysique avec je sais plus comment il s'appelle ceux qui tournent,
les soufis.
Et puis de l'islam où on se cristallise sur les formes et sur et là c'est pareil, l'animisme n'est pas idéal, enfin je réponds peut-être pas à votre question hein. Déjà chez les animistes les points de vue s'affrontent, donc c'est pas on peut se méfier de cet homme. Est-ce qu'il est déguisé en oiseau pour mes pieds ou etc. Enfin, c'est pas lisse non plus.
Mais après, est-ce qu'on a tous une culture de fait ? Donc finalement, l'ethnocentrisme quelque part, on a besoin pour notre identité, tu vois. Mais après, ta question, ça m'évoque la question de la curiosité, c'est-à-dire qu'on peut être on peut être bien dans sa culture, dans ce qu'on est, mais avoir une sorte d'appétence, de curiosité vers l'autre, tu vois. J'aime beaucoup cette notion de dialogue, aller dans le dialogue. Enfin, je pense qu'on peut être de culture chrétienne et avoir une curiosité pour le bouddhiste, tu vois, pour qu'est-ce qu'il aurait à m'apprendre, mais sans renier sa culture chrétienne, tu vois. Et, enfin, j'imagine qu'on peut être animiste en ayant la curiosité pour d'autres, mais après, on voit que bien souvent, les animistes sont entre eux et ils disent que les autres sont des cons, et les chrétiens sont entre eux et disent que les autres sont des cons. Il y a une sorte de truc un peu, je ne vais pas dire que c'est humain, mais c'est vrai que, mais en même temps, on peut imaginer, enfin, il y a probablement des gens qui font autre chose, tu vois. En fait, il y a la pluralité partout, mais j'imagine qu'on peut être dans une culture et avoir de la curiosité pour l'autre, tu vois.
Est-ce que c'est pas un idéal?
Bon, après je pense que ça existe de fait, j'imagine, mais pas, je pense que déjà en venant là, après l'idée c'est pas du tout marqué. Je sais pas si je vais lancer un détail.
Ouais, c'est vrai. Ouais.
Et après pour garder la parole, je trouve intéressant. Enfin je trouve que convier David Abraham, enfin moi ça me parle par rapport à ton propos, tu vois, je me disais. Si j'ai bien compris ce qu'il dit, David Abraham, il dit que c'est une façon un peu, j'allais dire vendeuse, c'est pas très gentil, mais un peu provocatrice de dire la Terre s'est tue. Donc c'est-à-dire qu'on n'écoute plus parler la Terre. Alors je ne vais pas trahir le suspense de son livre, mais si je vais le faire quand même. Mais à la fin, parce qu'il a tout un suspense dans son livre, on dit mais pourquoi la Terre s'est tue ? Puis à la fin, il dit en fait la Terre s'est tue parce qu'elle s'est tue avec l'arrivée de l'écriture. C'est-à-dire que finalement, il y avait des traditions orales où, du coup, par l'oralité, on était en lien avec ce sensible. Et puis en fait, quand l'écriture est arrivée, on s'est coupé de ça parce qu'on n'avait plus besoin, parce qu'on s'est mis à écrire. Enfin, notre lien est passé dans l'écriture. Et je trouve que, enfin, je trouve sa théorie intéressante. Et puis l'écriture, ça, ça s'est continué à se structurer avec les médias, enfin, la télé, la radio. Et je trouve que tout ça fait beaucoup de bruit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le média, l'écrit, le scientifique fait du bruit, quoi, parce qu'il a, la télé, la radio. Et du coup, on entend un peu que ce vacarme-là, qui est peut-être, alors ça je me risquerai pas trop, mais qui est peut-être un vacarme rationaliste, un vacarme consumériste, un vacarme capitaliste, peut-être qu'il y a tout ça dans ce vacarme-là. Et moi j'ai l'impression que le rapport au sensible, le rapport au mystère, il est là chez nous, comme il est là chez les peuples animés, enfin les peuples lointains ou les cultures lointaines. Je ne suis pas sûr qu'on est déconnecté de tout ça, c'est-à-dire mais tout ça est beaucoup plus silencieux, beaucoup plus discret.
C'est ça, matrice primaire et secondaire. Enfin, c'est pour ça que je trouve intéressant de Véreux.
Et tu vois, moi je suis toujours frappé des États-Unis, les États-Unis finalement, évidemment c'est une culture, c'est le capitalisme, puis en même temps tu vois c'est le président qui jure sur la Bible, mais c'est tellement mignon, parce que c'est la Bible, c'est quand même l'esprit, quoi. C'est le gars, voilà, le gars, il y a Jésus, il y a l'Esprit Saint. Enfin, nous, on parle des fois, on monte du doigt les gens qui croient aux esprits, mais enfin, on est quand même dans la culture de l'esprit, tu vois, on est quand même dans la culture chrétienne, c'est pas rien, ce mystère-là. Et tu vois, et puis moi, dans un exemple plus concret, il y a une patiente qui vient, une prof, qui était un peu en difficulté, et puis elle. Je parle un peu de poésie, elle me dit, la poésie, moi, je suis rationnel, le problème, c'est que j'arrive pas, je suis rationnel. Bon, du coup, on est passé à autre chose. Et puis à la fin, elle me dit, mais moi, j'aime bien chez moi discuter avec mes plantes. Si tu veux, mais ça, c'est, je pense qu'on est tous un peu comme ça, tu vois. Mais
pour elle, c'est rationnel.
Voilà, mais en tout cas, tout ça pour dire qu'il faut peut-être. Enfin, je sais pas si on a vraiment perdu ça, si on est un peu. S'il faut aller chercher très loin des gens qui auraient peut-être. Il y a quelque chose peut-être qu'il faut peut-être faire un peu taire le Dakar, mais redonner de la voix à d'autres choses. Mais ce que tu as fait aussi, tu vois. Parce qu'en tout cas, on sent que tu as donné de la voix, quoi.
En tout cas, ça a été très concret avec le travail avec Sciences et Arts. C'est concret.
Pour prolonger vite pour le dire. En cherchant sur ta question, moi je me dis c'est comme s'il fallait faire, si on était à la visée, c'était qu'on soit les traits d'union entre le cérébral et l'animal, entre la science et le sensible en fait, et comment on va buter ça, comment les vases communicants entre l'esprit d'enfance aussi qu'on a en nous qui est connecté et qui s'efface avec l'apprentissage scolaire en fait, et comment on réveille tout ça, et comment on rééquilibre, et moi je sais pas, je sens qu'il y a un appel à ce niveau-là, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles. Et je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. De rééquilibrer en fait, c'est oui. Ça, on a. Mais on a tout en nous en
voilà,
fait.
Voilà, finalement l'humain est toujours un animiste hein, en soi.
On l'a, parce que la patiente en fait, elle l'a, mais elle, moi je dirais pas que c'est la rationalité pour elle, c'est qu'elle ne l'a pas vue. Elle est enfermée dans sa rationalité, elle ne voit plus ses potentiels en fait quand elle parle avec ses plantes. Elle est pas rationnelle, elle est vivante.
Oui, voilà.
Elle est plus que ce qu'elle croit qu'elle est. Moi, je dirais. Et je trouve ça magnifique.
Moi, j'entends surtout qu'elle voulait donner une réponse pourquoi elle n'écoutait pas. Pourquoi elle donnait une réponse, en fait, directe. Parce que souvent, je me méfie un peu des réponses qu'on nous donne, d'essayer d'aller chercher du sens. Elle aurait pu dire autre chose, mais c'était une manière. Moi, je me rends compte que des fois, je dis des choses pour répondre, pour me sortir un peu d'une affaire. Mais en fait, c'est pour m'en sortir.
Ouais, tu veux dire l'arrivée de la poésie, le thème de la poésie, par exemple.
Voilà, par exemple.
Oui, et parce que ça, peut-être, ça allait la mettre trop dans l'intime. Et
mal à l'aise.
Mais je pense qu'effectivement, il y a un malaise, en fait. C'est ça qui est un peu triste, c'est que. Dire qu'on veut discuter avec ses plantes, peut-être que les gens devant le médecin, c'est peut-être que.
Être sensible à notre époque, c'est plutôt. Ça peut être une force pour. Si tu l'assumes. Voilà, mais bon, après, c'est peut-être vraiment vite. Être sensible. Quelqu'un de sensible, voilà, plutôt ça. Quelqu'un de sensible à notre époque, c'est plutôt quelqu'un qui est plutôt vu comme faible, voilà, comme un, voilà, comme un vulnérable et voilà. Et, ah, quelqu'un ça, qui a ouais, su
tout à fait, tout à fait.
Moi je trouve que ça a vachement changé ce, oui, ce regard-là.
Oui, oui, ouais.
Quand
oui,
je regard, compare avec ouais. ma jeunesse dans les années 80, on était blindés, la sensibilité, c'était une maladie. Enfin, voilà. Ouais. Mais je trouve que quand même,
c'est
enfin, je sais
aussi.
Pas.
Enfin, je sais pas, enfin, après, je
pour les personnes
à,
époque,
mais,
qui sont plus proches de l'époque, est-ce que vous avez ressenti pareil? Parce que je trouve que maintenant, au contraire, il y a une espèce d'acceptation de la différence, de la particularité de chacun, quand même. C'est... Et c'est très bien, c'est génial. D'ailleurs.
Tout évolue, mais ça n'empêche pas qu'il y a, des choses qui restent et qui évoluent en même temps. Il y a toujours plusieurs échelles
oui,
dans
vrai.
Les choses.
Il y a plusieurs niveaux.
Il me semble qu'on vit quand même dans une société où il y a beaucoup d'intermédiaires et beaucoup de choses qui viennent s'interférer entre la nature et nous. Et peut-être que c'est... Ça demande un petit effort quand même. Mais en même temps, je pense qu'on a tort de croire qu'il faut être en pleine forêt, dans la nature, pour être très proche de cette nature et se ressourcer. C'est peut-être juste un changement de regard et viser de poser son regard de temps en temps, même si c'est que sur une petite jardinière de balcon. Mais en fait, ça peut être aussi fort que d'être... Enfin, on croit qu'il n'y a que les peuples naturels qui peuvent avoir ce lien à la nature, mais en fait, c'est, comme vous dites, je pense qu'on l'a en nous. Mais on est dans une société qui demande qu'on aille rechercher un petit peu plus profondément, c'est moins évident. Mais c'est pas forcément proportionnel avec tout d'un coup la grandeur de la nature. Donc on peut en effet se reconnecter, et admirer et être à l'écoute, même.
Bah, la nature,
petite,
c'est...
Une petite fleur, un petit nuage qui passe.
C'est un rythme aussi de la nature, quoi. C'est pas simplement une contemplation, quoi. C'est aussi un, c'est vivre à l'état d'un rythme de la nature. Quoi. Enfin, après, ça peut paraître très grandiloquent, mais c'est pas l'épanouir. Enfin, s'épanouir, enfin, l'évolution de la nature, la lenteur déjà. La lenteur dans la vie courante, c'est
moi je dirais depuis le Covid, ça nous a fait aussi réfléchir. Oui, c'est parce que ce petit virus, petit, il a traversé toute la planète. Et je pense à quelque part, c'est un lien aussi avec la nature et ça demande de réfléchir. On se rend compte que on s'est éloigné de la nature. Et on en paye les conséquences aussi.
Ça nous a rendu vulnérables.
Mais de ce point de vue-là, depuis le Covid, et puis là, sur les étalages, on est en manque de ci, manque de ça, je pense que finalement, ce qui se passe actuellement, tous ces manques, eh bien, on va peut-être revenir à l'essentiel. Dans le sens, est-ce qu'on a besoin d'avoir 10 produits à choisir? Je pense que la nature, elle nous parle aussi. Donc voilà, il y a beaucoup de réflexions là-dessus. Peut-être que la nature, elle nous rappelle justement qu'on s'est un peu trop éloigné.
Oui, puis c'est une réalité, hein, cette urbanocène, c'est une réalité. Hein, j'ai pas les chiffres, hein, mais toutes les 2 secondes, il y a une colonisation d'un département.
Comment ?
Je sais plus, il y a des chiffres, mais je les ai pas. Style, toutes les 2 secondes, il y a un département colonisé par du béton, par exemple.
Ah, c'est la soignisation.
Pardon ?
Non, c'est l'asphaltisation. En fait, effectivement, c'est mesuré et c'est très très impressionnant. J'ai pas les chiffres non plus. Mais moi, je fais partie d'un groupe de réflexion écologique et en fait, moi, je suis dans l'Ain. Et ils ont bétonné, je pense, à peu près 2 hectares pour mettre des voitures en location qu'on vend par Internet. Ils ont mis des barrières avec des barbelés, vous savez, qu'on voit aussi dans les trucs militaires, des barbelés comme ça, là, pour que les gens rentrent pas. c'est absolument horrible. J'étais pas tout seul, mais on avait proposé de faire une action par rapport à ça. Et on s'était un peu intéressé à ces questions du fait qu'on bétonne. Enfin, c'est pas de la bétonisation, c'est qu'on fait. À la limite, comment dire, par rapport à la question de la trame verte, là, si vous voyez le parking du stade de foot qui est à mes yeux, ils n'ont pas mis de l'asphalte, ils ont mis du gazon avec des petites pierres et puis, qui délimitent le fait que les voitures puissent se mettre. Donc c'est de la rationalisation, mais c'était mieux que rien quand même, quoi, parce que il peut y avoir des petites bêtes, enfin voilà. Bon, donc on en est là, c'est-à-dire qu'on va se battre pour des choses comme ça. Enfin, je veux dire, enfin. Moi, je crois bien que vous étiez en colère, et ça me faisait plaisir, hein, moi, que vous soyez en colère. Hein. Moi, et c'est pas une colère contre nous, tout ça, mais je pense qu'il y a de la colère, effectivement, que moi, je partage. Parce que la nature, elle appartient à qui ? On voit bien aujourd'hui, là, sur la question des chasseurs, on n'arrive même pas à avoir un dimanche pour se balader. Ils n'ont pas accepté qu'il y ait des dimanches et les chasseurs peuvent continuer à chasser. Je ne suis pas anti-chasse, j'ai un copain qui est chasseur, il me dit oui, mais nous, il habite à la campagne, on y connaît bien mieux la nature que toi. Bon, c'est possible, hein, mais il n'empêche qu'on est là-dedans. Regardez le débat qu'il y a eu sur le fait de tuer ou non les taureaux par rapport à... Bon, je veux pas ouvrir le débat, c'est pas ça, on peut en penser ce qu'on en veut, mais on voit bien, moi je suis assez d'accord avec vous, on voit bien que ça change, on voit bien qu'il y a des débats aujourd'hui qui finalement sont peut-être périphériques par rapport à ce que vous avancez, mais à mon avis qui sont en plein là-dedans, parce que c'est pragmatique, quoi. C'est-à-dire qu'on va être confronté à des choses très pragmatiques. Comment on fait pour partager la nature entre ceux qui font du trail avec des motos et puis le mec qui se balade et qui cherche des champignons, enfin. Mais là, Natura 2000 qu'ils ont mis en place. Moi, j'ai une maison dans le Limousin. C'est Natura 2000, mais en fait, on voit arriver les types qui sont à peu près mais 500 qui font des courses, si vous voulez, ils passent en plein milieu. Il y a les écologistes qui ont changé les... Je m'excuse, hein, mais je raconte des histoires. Mais qui ont changé les pancartes, parce que c'était une course comme ça. Et il faisait très froid, et il y en a qui se sont perdus avec leur moto. Ils sont passés la nuit dehors. Ils ont fait de la... Comment on appelle ça toi qui es médecin, quand t'as froid, de la petite hypothermie. Ils ont fait de l'hypothermie, et après, il y avait... Le journal local qui disait, vous rendez compte, les écologistes, ils ont pratiquement mis ces gens dans une situation où ils allaient mourir. Mais moi, ça m'a fait rire, parce que j'ai pas envie de me battre pour ça, mais j'ai vraiment l'impression que on va avoir des colères sur la manière dont on veut user de la nature, et même en ville. Hein.
Mais vous avez parlé de l'alpha, j'arrive pas. L'alpha... L'alphatisation, ouais. C'est très important, ouais, ouais. Ça, parce que ouais. C'est, je crois que c'est le premier facteur de.
Ouais, j'ai plus en tête, mais je crois que c'est pas exactement ça.
D'anthropocène, pire que le climat.
Oui, complètement d'accord.
Mais ouais. ça agit sur le climat, de toute façon.
Mais je voulais juste vous poser une question, moi, en fait, par rapport à ça. Là. On a l'impression, en vous entendant. C'est peut-être une impression que je partage, que finalement on est amputé de la nature, on a oublié vous parlez de l'essentiel, je ne sais pas ce que c'est que l'essentiel, mais on voit bien qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive plus à saisir, et vous parlez d'apprenant, la question qui se pose c'est un vrai paradoxe, c'est-à-dire que vous allez convoquer dans cet apprentissage une discipline qui est une discipline scientifique. Et donc comment on fait avec ça? C'est-à-dire qu'à un moment donné, pour apprendre, il faut faire le constat que ben on est amputé, quoi. Mais est-ce que c'est réellement par ce biais-là qu'on peut apprendre? Moi, je suis plutôt d'accord avec Jean. C'est un truc qu'il faut pas trop intellectualiser. Moi, quand je vais dans mon jardin, je regarde des vers de terre, mais je vais pas penser à Dévreux. Je vais pas penser. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai un peu peur d'une forme d'intellectualisation qui nous ramène au fait que la nature, ça s'apprend, mais merde, excusez-moi de le dire, mais on est dedans, quoi. Est-ce qu'on a besoin...
Ouais,
on est la nature. Est-ce qu'on a besoin de maîtres qui nous apprennent, quoi. Enfin, c'est cette ambition pédagogique, moi, que j'interrogerais dans votre propos. Tout le reste me convient parfaitement, mais cette ambition pédagogique, je ne sais pas.
Nous, on ne fait pas du tout des SVT, nous.
Non, mais ce n'est pas par rapport à vous, je dis ça. C'est... On voit bien que par rapport aux enfants, comme ils sont les enfants sont dans une pensée analogique, c'est super beau les dessins que vous amenez, tout ça, ça fonctionne. Mais j'ai une tradition de politique publique. Je vois bien que les politiques publiques s'emparent de cette question-là aujourd'hui et vont nous dire, ben alors, vous êtes amputés, il va falloir que vous appreniez, quoi, et on va avoir des maîtres S-nature qui vont nous apprendre. Je caricature à mort, hein, mais est-ce qu'on va vers ça?
C'est important, comment apprendre. Soit on se réapproprie les choses, on crée du lien, soit on apprend de façon didactique ou morale.
Je sais
parce
pas.
Que la morale,
je sais pas si ça prend du sens.
Oui, Abraham, il a une piste, moi, qui m'a saisie dans son livre. C'est écouter la nature pour que la nature parle en nous et que ce ne soit pas nous qui parlions de la nature. Et là, moi, je lui dis, tout est dit, en fait.
Oui, mais voilà, on a toujours des phrases qui nous parlent. Qui font écho en nous, parce qu'elles font écho à notre expérience. Moi, j'appelle pas ça de l'apprentissage. L'apprentissage, c'est un calendrier qui se développe, si vous voulez, comme à l'école.
Oui, mais comme vous vouliez en sortir de l'apprentissage.
Moi, c'est pas que je veux sortir de l'apprentissage. J'ai appris plein de choses dans ma vie. Simplement, je pense que par rapport à la nature, la question de l'apprentissage me fait un peu peur. C'est un peu de l'écofascisme pour moi.
Alors moi, je vais vous répondre. Je peux vous répondre.
Oui.
J'ai travaillé 20 ans là-dessus avec des enfants et la dernière année j'ai des enfants à Oulin qui me répondaient de façon très stéréotypée, il faut protéger la nature, etc. Enfin dans leur réponse, hein, Et en fait j'ai essayé de leur faire dire ce qu'eux ressentaient et non pas tout ce qu'ils avaient appris, qui était... Ils avaient un discours complètement écolo en fait, mais ça allait pas non plus. D'accord. Parce que c'était un discours.
Ils avaient appris au sol.
Voilà, qui n'était pas approprié. Ouais, j'arrivais pas à leur faire dire, donc justement, il faut passer par d'autres méthodes pour leur faire dire eux leur ressenti. C'est pas l'arbre, il faut le protéger, c'est toi, comment tu sens l'arbre. Voilà.
C'est trop éloigné là.
Et les enfants ont changé. En 20 ans, ils ont changé, ils sont devenus hyper écolo avec toutes l'éducation à l'environnement qui va dans les écoles. Mais voilà, il faut les raccorder à eux-mêmes, quoi, quand même.
Et puis l'apprentissage, c'est vraiment la base aussi de... Chez tous les animaux, il y a toujours des mécanismes d'apprentissage. C'est assez... J'ai été dans une bergerie bénévole, on voit dans les brebis, entre les nouveau-nés et les mères, il y a vraiment un phénomène d'apprentissage qui se crée. Et c'est plutôt la question de comment est-ce qu'on apprend. Même chez les peuples indigènes, je ne connais pas dans le détail, mais ils apprennent vraiment de leur environnement, par l'expérience, ils se communiquent par l'oral, comme tu disais, Jean. Et du coup, c'est plus ce lien à ce qu'on apprend à par l'expérience.
Bien sûr, mais là où je sais pas que je voulais en venir, mais ce que j'avais en tête, c'est qu'en fait, cette reconnexion avec le sensible dans les sociétés... comment tu dis, c'est pas primitif, comment tu dis, société animiste, il passe par des techniques très précises, avec le chamanisme par exemple, où à un moment donné, on prend un certain nombre de produits. C'est-à-dire que cette histoire de l'invisible et du visible, pour accéder à l'invisible, dans les sociétés, il y a des techniques, des dispositifs très précis qui sont dangereux. Parce que voir l'invisible, c'est aussi dangereux. C'est pas quelque chose qui est anodin. Ça peut être aussi, parce qu'on parle raison, en face de raison, il y a folie. La folie, il y a la folie positive, mais il y a une folie aussi qui fait très mal. Et donc, quand je dis apprendre, je me demande si c'est un problème qui est lié à une pédagogie. Moi, je comprends parfaitement, je suis d'accord avec ce que vous avez répondu, hein, sur le fait que Vandana Shiva, elle dit qu'il faut entourer les arbres et puis avoir cette expérience sensible de l'écorce. Ça, j'entends très bien. Mais La pédagogie, si vous voulez, hissée à un niveau qui est de il faut se reconnecter et que ça devienne un mot d'ordre, un plaidoyer, hein, tout le monde a dit que c'était un plaidoyer, ça m'inquiète parce que, en fait, si on regarde dans la manière dont nos anciens se sont débrouillés avec cette question de on va vers l'invisible, mais on y va, on a peur, on y va, mais en fait on y va parce que ça fait partie de nous. Ils ont été très très cadrants au niveau des dispositifs qui sont mis en place parce que c'est dangereux. Et ce que je crains, moi, c'est que c'est ça qu'on a perdu.
C'est exotérique, ouais. Moi, ce que je propose, ouais. C'est pas du tout d'aller entourer les arbres et de leur faire des mimis. Hein.
Non, mais ce que vous proposez, c'est parfait. C'est pas contre ça. Moi, je parle pas de ça. Je parle de la manière dont ça peut amener dans la société des politiques précises qui vont pas avoir, si vous voulez, la délicatesse et la manière dont vous y prenez, quoi. Enfin, c'est pas la manière dont vous y prenez.
Non, mais c'est pour ça que le néo-chamanisme dont vous parliez, madame, c'est dangereux. Ça peut être dangereux. C'est-à-dire les gens qui vont en Amazonie pour prendre de l'ayahuasca.
On se jette dedans.
Il y a des morts aussi.
Parce qu'on n'a pas la culture pour ça, évidemment.
Ça peut être dangereux.
Et puis vous parliez vous parliez de Paul McCartney. Enfin, moi, je suis un enfant du rock, ils ont tous pris des drogues pas possible. Enfin bon, et à un moment donné.
Oui, c'est pour ça que l'on proposera des portes d'accès aux sensibles. Donc en effet, toute la rêverie autour du Rhône et comment on amène les enfants à imaginer des chimères. Moi j'utilisais la photographie qui est une autre porte, il y a le chant, il y a la danse. Plus on proposera des portes d'accès qui sont hyper diversifiées et justement qui répondent à plein de sensibilités, moins on ira vers ces singulières. Moi, on tombera dans les dangers du néo-chamanisme, j'ai l'impression.
Je voulais juste répondre, la chimère, c'est pas que de l'imaginaire. Parce que comme c'est science et art, ça repose, la chimère, c'est l'imaginaire de l'enfant, mais qui repose sur je vais prendre deux animaux de la chaîne alimentaire et je vais les mettre ensemble et je vais créer une forme.
J'ai compris à la fin, parce que c'était... Ouais.
C'est pas juste...
Ça a un sens vraiment...
C'est carnet,
scientifique. Ouais. Je trouve que, tu vois, ta question de départ, c'était est-ce qu'il faut mobiliser la science, un argument scientifique pour amener... Je trouve que c'est une question qu'on se pose beaucoup avec l'IA sur la question du soin poétique. On s'est beaucoup inspiré du chamanisme. Je m'inspire beaucoup d'auteurs, philosophes, sociologues. Et en fait, à un moment, on est aussi dans une culture où le professeur, le scientifique, il fait autorité, quoi. C'est-à-dire que les gens, il y a plein de gens... à la radio, quand il faut amener, quand il faut poser un argument, on invite un sociologue, on invite un chercheur du CNRS et tout. J'ai l'impression que pour amener un soin sensible, comment tu amènes les gens de notre société à ça? Je pense qu'à un moment, ça peut pas être que ça, mais en tout cas passer par des travaux scientifiques qui vont dans ce sens-là, je pense que ça peut être une manière d'amener des gens qui sont justement dans une culture très rationnelle, peut-être à s'ouvrir. Moi j'adore ces auteurs comme Husserl et Merleau-Ponty qui sont des gens qui ont une autorité scientifique, mais en fait qui amènent à quelque chose de très sensible. Et le chamanisme, moi j'adore, avec certains ici on a beaucoup discuté, voire pratiqué, mais après je vois le danger aussi d'être catalogué, d'être... moi, ce qui m'a halluciné, c'est qu'il y a, une commission interministérielle de lutte contre les sectes. Mais ils parlent de sectes médicales, mais dans les sectes médicales, il y a tout ce qu'ici on adore.
Pour un médecin.
La constellation familiale, je ne vais pas dire bien ou pas bien, mais j'imagine que le chamanisme, c'est dedans. Vous voyez. Mais je veux dire, le conseil de l'ordre, les médecins, le corps médical désigne ces gens-là comme des gens dangereux, en fait.
Les naturopathes récemment.
Voilà, et du coup, c'est pas de dire bien ou pas bien, c'est de dire. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément de toucher des gens qui sont à la sphère du chamanisme, qui sont convaincus, qui sont accès à tout ça, c'est les autres. C'est ceux qui viennent au cabinet qui sont qui ne connaissent que les psychiatres et les antidépresseurs et les antipsychotiques pour se soigner. Moi, c'est ces gens-là que j'ai envie d'emmener vers autre chose. Et ces gens-là, bah, comment tu fais? Bah, je pense que c'est pas que ça, hein, mais le solliciter la science, ça peut rassurer certains. Et je trouve que ça aussi sa place, de solliciter la science. Et puis des auteurs qui sont très différents malgré tout.
C'est ce que je vous disais, hein, quand pour l'éducation nationale, je rajoute tel truc. Moi je me suis quand même moulée dans le cadre de l'éducation nationale, c'est pas rien.
C'est comme si on s'insunie, on s'infiltre dans les.
Moi je dirais que on demande à se reconnecter à la nature, je dirais en premier lieu, c'est déjà à se reconnecter à soi pour pouvoir justement ressentir. Voilà. Parce qu'on a tout en nous, mais c'est simplement pas s'oublier, aller au fond de nous-mêmes et voilà quoi. Ressentir, c'est déjà ressentir ce qui se passe en nous déjà.
Alors justement, moi j'avais une question très simple. En fait, quelle différence vous faites entre environnement et nature alors? Parce que là vous parlez de pédagogie.
Dans l'appellation éducation à l'environnement.
Je sais pas vous.
Parce que l'éducation à l'environnement, c'est une appellation, c'est arrivé un peu avec le scoutisme, l'éducation populaire, c'est une forme d'éducation qui est rentrée dans les écoles, plus par le biais des associations, des ONG, mais après que l'éducation nationale a récupéré via les SVT en France, les sciences donc de façon très assez rationnelle quoi. C'est ça que vous me posiez comme question?
Non, mais la différence, pourquoi vous, est-ce que vous préférez employer le mot environnement ou nature ou je ne sais pas, enfin, alors, quelle est la différence qui existe, puisqu'il y a deux termes, ça doit être différent.
Alors, l'environnement, pour moi, c'est tout ce qu'il y a autour de nous. Et quand je disais, avec la poésie, c'est le réel aussi, qu'on met du volume dans le réel. Dans ce réel qui est un peu à platocène, on va mettre du volume et la. Les objets du monde, c'est l'environnement au sens large. Et l'environnement, il y a le milieu naturel, le milieu culturel, ma cité avec toutes les mémoires et tout, et puis les objets du monde, le réel, quoi. Voilà. Donc.
Mais ça peut être aussi la technoscience, ça peut être justement mon téléphone, ça peut être, pas. Oui, c'est ça.
Oui. Bah, on peut remettre de la poésie avec les téléphones.
Vous parliez des ponts, finalement, ça fait partie de, les ponts, finalement, ça fait partie de l'environnement et des choses qui font partie de l'histoire aussi et qui permettent peut-être de s'approcher. Enfin, je me dis que ce qui permet aussi de s'approcher de la nature, finalement, c'est à défendre, même si des fois ça peut paraître contradictoire. En fait, dans ce que vous disiez, moi j'entendais que le danger c'était peut-être. Ça m'a rappelé comme ça l'histoire de dans une forêt, ils ont construit une tour avec un belvédère pour pouvoir apprécier la forêt. Et là on peut se dire, dis donc, quel sens ça a finalement de construire une tour au milieu de cette forêt pour que plein de monde vienne pour apprécier la forêt? Et en même temps, est-ce qu'il ne faut pas en passer par là pour que les gens soient sensibles et qu'ensuite, en descendant, ils fassent. C'est compliqué quand même.
Ça peut
pas
être. Parce que le monde ne peut pas grimper aux arbres.
Mais il y a l'histoire d'être touché soi-même quand même. Et je te rejoins là dans le sens où il faut que ça soit lié à soi. Et l'art permet de se lier à soi aussi. Pour les enfants là qui ont dessiné leur apron, c'est leur apron quoi. C'est, même s'ils expriment sa chaîne alimentaire, ils sont tous différents, mais il y a une appropriation, se relier à soi. Pourquoi je disais ça c'est vous qui avez posé une question.
Vous la tour.
Le lien
alors
entre
la tour, oui.
Pas Bruno.
La construction.
Au milieu de la forêt pour y aller, on va pas mal détruire la forêt hein, parce qu'il y a des espaces comme ça, le Mont Blanc, tout ça, qui sont en train de se déliter.
Mais finalement, je crois que moi, ça me semble pas être un problème ça, parce que ça part dans tous les sens. Les choses se recoupent, se détruisent l'une l'autre.
on va arriver par le niveau de la science, on va arriver par la pédagogie, on va arriver par l'expérience de vue, on va arriver par le néo-chamanisme, mais ça va ensemble finalement. Enfin, ça va dans la même direction, enfin, à mon avis. Et peu importe s'il y a des choses qui vont un petit peu érafler sur les bords au passage, ça va bouger quelque chose. Moi, je trouve ça chouette.
Je voulais quand même dire qu'il y a des dangers. Jean, je pense que l'ordre des médecins, ça peut être un danger, selon comment tu t'affiches. Moi aussi, j'ai été quand même pas mal... comment on dit ? L'inquisition de l'éducation nationale. Quand on fait de la transversalité, de l'interdisciplinarité, à l'époque, moi j'étais renvoyée de la DRAC à la DIREN, de la DIREN à la DRAC, et j'avais des ennemis quoi. On peut avoir des ennemis. Et toi, l'ordre des médecins, ça peut être un danger.
Pourquoi c'était des ennemis par rapport à toi ?
Oui, des ennemis parce que.
Mais parce qu'ils ne supportaient pas qu'on casse les disciplines, qu'on fasse de la transversalité, que. Les subventionneurs, si j'allais à la DRAC, à la culture, ils me disaient allez plutôt à la DIREN, l'environnement. L'environnement, ils me disaient allez plutôt à la culture.
Oui.
Donc moi j'étais entre les deux, voilà.
Ouais,
et on a beau avoir un discours sur l'interdisciplinarité, c'est pas tellement. Enfin, la société.
Tu appartiens à une certaine.
Enfin, je veux dire, on peut avoir reçu des coups aussi. Moi j'en ai reçu deux, là. Et ça peut être dangereux.
Après, moi, je me sens pas menacé, hein, si tu veux. Par contre, je sens qu'il faut faire un peu attention.
Voilà,
à mon niveau, j'en suis là. C'est-à-dire, je sens pas de danger, mais par contre, je sens qu'il faut que je sois prudent, notamment pour rester dans l'exotérique, comme tu dis, dans l'exotérique. C'est-à-dire qu'à un moment, le travail de l'ethnocafé, il est là pour être partagé. Et moi, j'ai aussi envie d'intéresser le corps médical, parce que je pense qu'il y a besoin de ça, il y a besoin de soins poétiques. Et du coup, attention de pas à un moment déraper et qu'il y ait une étiquette qui soit mise sur le front, parce que là, c'est foutu. Et c'est perdu pour la... J'allais dire, l'ethnocafé est perdu pour les médecins, ce serait un drame absolu. Tu vois ce que je veux dire, c'est du coup, attention, il faut être... Oui, il y a une sorte de prudence pour que tout ce qu'on travaille là soit accessible. Et je pense que c'est important, on trouve que son travail est important, mais cette dimension politique du soin, enfin, moi j'ai envie de donner envie aux médecins classiques en fait.
Et je sais pas comment vous pouvez visiter votre lieu auprès des autres médecins aux alentours et tout. Est-ce que vous faites de la pub comme ça à tous les généralistes de la pratique, quoi. Qu'est-ce que c'est ? Vous avez c'est grossier. Mais est-ce que vous attendez plutôt que les gens viennent vers vous patiemment et, parce que c'est aussi l'intérêt des gens qui viennent venir ici. Et voilà.
Je pense qu'on prend l'option de. Après, je te laisserai la parole, Lia, parce que t'as. Lia, elle a besoin d'être lancée pour parler. Après moi, on lance Lia. À part ça. Je pense qu'en fait, on a quand même un principe de discrétion avec les médecins. C'est-à-dire que. Les choses se font tranquillement. Moi, je dis toujours ça. Tu vois, moi, pour l'instant, quand on me sollicite, souvent, je dis non parce que les choses. Et on a une liste de diffusion, malgré tout, qui, bon an, mal an, grossit. Tu vois, on peut arriver à 450 personnes. Il y a des médecins. Et à mon avis, on est assez visible auprès des médecins. C'est-à-dire que les gens parlent, en fait. Tu vois, les gens parlent. Et je suis sûr que la plupart des médecins généralistes au centre de Lyon connaissent l'ethnocafé. Mais par contre, on va pas pour l'instant claironner, tu vois, on va pas aller vers le Conseil de l'Ordre.
Vous affichez pas.
On s'affiche pas parce que
cibler, tu vois, le.
Voilà, puis on cible médical, pas, et puis je pense qu'on est aussi en travail, tu vois, avec. Je pense qu'il y a un moment de travail, il y a un moment de partage, et ce moment de partage, il n'est pas tout à fait là. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai besoin encore de travailler. Peut-être qu'un jour, j'aurai envie de.
Votre travail, votre pensée n'est pas. Vous n'êtes pas en accord avec beaucoup de tous les majorités des médecins aussi.
Alors, je pense qu'on est original. On est original, mais je ne suis pas sûr qu'on soit. Enfin, si on arrive bien à discuter, il n'y a pas de raison qu'on soit en accord.
Non, vous n'êtes pas opposé, bien sûr.
Hier, je t'ai promis un lancement.
Le lancement comme une fusée, c'est beau. Non, en plus, j'ai pas grand chose à dire.
Non, bah,
sauf
sûr,
que...
tu pensais à fond.
Non, non, mais j'aime bien. Bon, après, voilà, on a déjà discuté de ça, mais c'est vrai que là, c'est intéressant par rapport à cette notion de conceptualisation, enfin, dans voilà, cette société très rationnelle dans laquelle on est. Et comment est-ce qu'on peut, à un moment donné, trouver un lieu de passage comme ça pour pouvoir. Trouver aussi un langage commun qui sert un vrai point de contact en fait entre les mondes aussi pour dépasser un espèce de clivage et puis pouvoir rassembler et réunir en fait un maximum de d'être, un maximum de conscience, un maximum de monde comme ça qui vont tout à coup faire peut-être regarder dans une autre direction ensemble. Donc voilà, pour moi, effectivement, je pense qu'il faut y aller très en douceur et pas... parce que je vois bien, en fait, que dès qu'on... toi, tu disais dérationalise, oui, plutôt que irrationaliser. Mais dès que c'est trop brutal, en fait, les gens se braquent. Et en fait, on obtient exactement l'effet inverse de celui qu'on voulait. Donc d'abord, peut-être y aller en douceur, en trouvant vraiment... ce point de contact, et puis après pour moi il y a vraiment l'expérience sensorielle en fait, c'est tout simplement à un moment donné que les gens puissent vivre tout simplement une expérience vivante qui n'est elle pas transmissible en fait, qui est vraiment de l'ordre d'une substance brute, c'est ça, donc voilà, peut-être qu'il y a aussi moyen d'y aller en douceur et de pas recréer effectivement des trop d'opposition entre les mondes, quoi, de pas rejouer cette guerre avec des visions d'ennemis aussi potentiellement. Et puis pour moi, merci, j'ai beaucoup aimé vraiment ton approche et même la petite colère saine, ça me parle beaucoup, et moi ça me renvoie beaucoup à la fonction de la poésie finalement, qui est de, enfin une des fonctions peut-être, qui est de réintroduire de la polysémie en fait, c'est-à-dire à un moment donné on va sortir d'une catégorisation figée, d'un sens arrêté en fait, on va commencer à élargir le sens du soi. Si tu parles du merle, quoi, est-ce qu'un merle est un simple merle, comment on conçoit, on définit un merle, est-ce qu'un arbre, est-ce que c'est juste un truc posé comme ça avec une écorce et des feuilles et tout, bon ça c'est notre vision arrêtée de ce que peut être un arbre, mais comment est-ce qu'on remet du mouvement là-dedans en fait, comment est-ce qu'on retrouve une capacité d'interroger les choses avec une sorte d'inquiétude positive, voilà, et comment est-ce qu'on se remet du même coup dans un temps, une autre temporalité peut-être qui est peut-être le temps de l'affect justement, par cette espèce d'ouverture au sens qui va largement dépasser à mon avis à un moment donné le langage articulé en tout cas. Voilà, et je terminerai là-dessus. Il y a deux choses. La première, c'est que récemment, j'ai écouté une interview de Yves Bonnefoy, et j'ai pas envie de déformer ses propos, mais ce que j'en ai retenu, c'est. Enfin, il y a un petit passage comme ça, c'est qu'à un moment donné, il parlait, il me semble, de Rimbaud, et il disait à un moment donné, Rimbaud a eu le courage de faire ce que je n'ai jamais, moi, osé faire, c'est-à-dire d'arrêter d'écrire. Et il a eu ce courage d'aller voyager et d'aller se remettre en fait dans cette immédiateté radicale. Et il m'a dit, moi j'ai jamais pu, j'ai jamais osé, mais il a eu ce courage-là. Voilà.
Mais est-ce que c'était vraiment du courage ?
Eh bien, pour bonne foi, alors c'est comme ça, dans mon souvenir en tout cas, qu'il l'a présenté. Après chacun interprète comme il veut. Parce qu'il y avait quelque chose aussi à lâcher. Hein. Bonne foi, il est toujours pris un petit peu dans cette contradiction entre à la fois il conceptualise la poésie et à la fois il veut que la poésie reste une manifestation pure, justement. Donc ça, c'est un petit peu la contradiction. Et juste parce que hier, je suis tombée juste par hasard sur un petit passage de Jacoté, et je l'ai photographié parce que j'ai pas le livre en fait, c'était pas mon livre. Et juste pour vous lire juste un tout petit passage, où il dit, Hölderlin a écrit que tout ce qui jaillit pur, en pureté, tout pur surgissement est énigme. Il y aurait une circulation invisible manifestée ainsi par des signes. Les signes seraient frêles, comme nous sommes friables, mais la circulation continuerait au-delà de toute espèce de cassure. Un vagabond peut entrevoir cela, recevoir pareil aumône, vite dissipé, probablement. Et un peu un court poème. En ce monde, nous marchons sur le toit de l'enfer et regardons les fleurs. Voilà. Et je sais pas, ça m'a fait penser un peu. Voilà. C'est un pur hasard, mais.
C'est le mot de la fin.
Ah, moi j'aime beaucoup. Mmh. Et nous marchons sur. Et nous regardons les fleurs. Mmh. Je trouve ça magnifique. Mmh. Et ce prolongement de cette circulation invisible, en fait, au-delà des signes, justement, dont peut-être tu parlais, que tu évoquais. Et
l'émergence voilà. Aussi, me fait penser ce que tu as dit juste avant à cette histoire de cristallisation de la science de l'art dans la culture ou de l'émergence. Avant qu'ils soient institutionnalisés et figés. La non-fixation. C'est ça un peu l'énergie des punks, bon, même si c'est négatif. Mais pour moi, c'est une image. Pardon.
C'est une énergie brute. Ouais.
C'est foisonnant. C'est...
Ah.
C'est subjectif.
C'est toujours un silence qu'a Mustapha.
Non, mais comme quoi les téléphones servent à quelque chose, parce qu'il y a la photocopie. J'y pense jamais, moi, quand je vois un livre, tiens, ça m'a donné une idée.
C'est juste ce passage-là qui.
Il y a eu des logiciels qui convertissent une photo de texte en texte, tu sais.
J'ai...
Tu prends la photo et ça convertit le Word.
Ouais,
pas de problème.
Ah, moi je les tape pendant des heures. En même temps, ça.
Voilà, tu vois.
C'est là où la ça technologie, rentre. Tu vois.
Ouais, mais non.
Il peut y avoir une jouissance à taper.
Ouais, mais c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ouais,
c'est
un
peu ça.
Et ben merci.
Merci.
Est-ce que quelqu'un peut arrêter le café?
Ah, c'est là.
Stop.